Le programme qui va suivre est réservé à un public adulte. Ces choses qu'on ne dit pas. Une émission proposée par Cédric Perrin avec Caroline Orsini et Cédric Perrin.
Et tous, nous avons le plaisir de vous retrouver pour notre second numéro de « Ces choses qu'on ne dit pas » avec le sexothérapeute et thérapeute de couple Cédric Perrin. Bonjour Cédric Perrin.
Bonjour Caroline Orsini.
Cette semaine encore, nous avons reçu beaucoup de questions auxquelles nous allons répondre pendant ces 30 minutes. Mais avant toute chose, pouvez-vous nous donner quelques indications sur la façon dont se déroulent les consultations en sexothérapie et en thérapie de couple au sein de votre cabinet ?
Quand une personne vient me voir seule, les consultations elles se déroulent de manière classique, comme dans toute psychothérapie, à un rythme qu'on définit ensemble avec le ou la patiente. Quand il s'agit par contre de consultations de couple, je préfère rencontrer les deux patients une première fois ensemble, avant de mettre en place des consultations individuelles avec l'un puis avec l'autre, alternativement, afin de les revoir à nouveau ensemble pour faire état des progrès constatés ou des nouveaux points de blocage. Il m'arrive également de ne recevoir que en couple, avec par exemple des personnes qui ont juste du mal à créer un espace de discussion entre eux. Le cabinet devient alors le lieu neutre qui permet au couple de se dire ce qu'ils ne parviennent pas à se dire dans la sphère privée. Mon rôle dans ce cas-là, c'est plutôt celui de facilitateur de communication entre eux, voilà, d'une certaine manière.
Très bien. Nous avons une première question de Margot. Margot a accouché il y a 8 mois maintenant. Elle n'a pas encore repris d'activité sexuelle avec son conjoint. Et ce dernier commence à trouver le temps très long, ce qui fait naître de la tension entre eux. Que peut-elle faire ?
En vérité, la vraie question, c'est que peuvent-ils faire au pluriel ? Parce que comme dans la plupart des problématiques de couple, c'est à deux qu'il est possible de trouver des solutions. En l'occurrence, là, il y a 3 éléments. L'aspect physiologique déjà, il est possible que Margot ait vécu un accouchement difficile, avec peut-être une épisiotomie. Et bien entendu, après ce choc-là, sur l'utérus, sur le vagin, sur les muscles alentours, il faut quand même du temps pour se remettre. Une fois la cicatrisation faite, ce qui peut déjà durer jusqu'à 6 semaines, il faut parfois passer par une rééducation périnéale. Pour savoir si c'est nécessaire, il vaut mieux consulter... et c'est le conseil que je donne à Margot, son gynécologue. Quelques séances avec un kiné ou avec une sage-femme, elles peuvent suffire pour remuscler toute cette zone. Ensuite, il y a l'aspect psychologique, même si c'est quand même lié aussi aux hormones sécrétées au moment de l'accouchement. Il n'est pas rare d'entendre en cabinet que madame est devenue plus une mère qu'une femme, même si je remarque que c'est plutôt une projection qui est faite par l'homme pour tenter de trouver une explication à la frustration qu'il ressent, plutôt qu'un état de fait reconnu par la femme elle-même. Je crois qu'il faut voir en fait les choses clairement et simplement. Margot est devenue une mère, et en cela, son rapport à elle-même et aux autres est à jamais changé.
Mais est-ce que ça veut dire que plus rien ne sera jamais comme avant ?
En fait, la réponse est oui. Et ça, je pense qu'il faut vraiment l'entendre et l'accepter. Ça ne sera plus jamais comme avant. Mais la vie d'une manière générale nous apprend que tout change, que tout évolue. Donc pour la vie intime, c'est la même chose. Quand on a un enfant en bas âge, c'est clairement plus compliqué de se faire une soirée avec du rhum pur en finissant sur la table basse. Voilà, c'est que oui. Quand on est sans enfant, voilà, c'est sûr.
Oui, mais tout le monde ne boit pas du rhum pur non plus.
Non, mais ça peut être du whisky aussi, il y a toutes sortes de possibilités. Donc déjà, il faut penser au contexte. C'est-à-dire trouver un moyen de sortir juste quelques heures du rôle de parent. S'il y a de la famille ou des amis qui peuvent s'occuper de l'enfant de temps en temps, le temps d'une soirée, c'est bien. Sinon, on peut essayer de se trouver une babysitter et c'est aussi une possibilité. L'idée en tout cas, c'est de sortir de la maison et si possible pour la nuit. Parce que la chambre à coucher, elle perd tout de suite son potentiel érotique quand on a un enfant. Donc voilà, on va au restaurant, puis on peut aller en hôtel, puis on peut aller en Airbnb si on préfère. Et ça peut être une bonne solution.
Et mais, après, oui. Excusez-moi, mais la chambre perd automatiquement toute sa base érotique. On peut mettre des règles pour que la chambre, par exemple, n'appartienne qu'aux parents, que les enfants ne viennent pas envahir, pour que ça reste un lieu quand même aux parents, non ?
Alors, on peut essayer de mettre des règles comme ça, mais très souvent, vous avez des parents qui pratiquent le co-dodo, ou vous avez des parents qui se disent, et c'est tout à fait normal, j'en ai souvent en cabinet, que quand l'enfant est malade, et bien finalement, on le fait dormir à côté du lit. C'est comme ça, on l'a sous la main, s'il pleure, s'il a des vomissements, s'il a mal au ventre. Et donc, du coup, ben, l'enfant, très souvent, rentre dans la sphère privée de la chambre à coucher. Et puis, la chambre à coucher, c'est aussi l'endroit où on va dormir parce qu'on est crevé. Parce que l'enfant fait pas ses nuits, parce qu'il est malade. Et donc du coup, dès qu'on pose sa tête sur l'oreiller, on dort. Et donc ça devient vraiment un lieu où on dort. Et puis du tout un lieu d'activité sexuelle.
D'accord.
Donc souvent je dis aux personnes qui n'ont pas la possibilité de quitter le lieu, la maison, l'appartement, d'essayer de se retrouver sexuellement ailleurs que dans la chambre. Notamment dans le salon, sur le canapé. Parce que là, c'est pas un lieu qui est... Qui a perdu son aspect, son potentiel sexuel.
Pourtant, on peut regarder la télé avec les enfants dans le salon.
Alors, quand ils sont en bas âge, non. Justement, ils ne regardent pas les... Parce que là, la question, c'est les enfants en bas âge. Hein. C'est...
Oui.
Après, une fois qu'ils sont plus grands, c'est plus facile de reprendre cette vie-là. Mais c'est vraiment dans la première partie, dans la première année, les trois premières années, on va dire que c'est compliqué.
D'accord.
À ce niveau-là. Donc voilà, et pour ce qui est justement de la partie sexuelle plus précisément, moi j'ai tendance à proposer à mes patients de pas trop se focaliser sur la pénétration, voire même se l'interdire et de se consacrer au reste.
Très bien, nous allons poursuivre sur cette idée d'interdiction, mais avant, un petit intermède musical avec un titre du nouvel album de Tori Amos.
Horses.
Nous sommes toujours sur Radio Fuse 107.5 FM avec le sexothérapeute Cédric Perrin. Alors, nous parlions de l'interdiction de pénétration. Ça me rend un peu curieuse. Pourquoi se l'interdire ?
Alors, d'abord, parce que ça permet de se poser, de poser les choses clairement et d'éviter que l'un ou l'autre se dise « Ah, mais si ça se trouve, il a envie de pénétration, mais il n'ose pas me le dire ou elle n'ose pas me le dire », ce genre de pensée. Là, tout le monde le sait et tout le monde l'accepte, pas de pénétration, point. C'est une sacrée pression en moins. Ça, je peux vous l'assurer. Ensuite, eh bien, le cerveau humain, il fonctionne toujours de la même façon. Il aura envie de faire ce qu'on va lui interdire.
Grand classique.
Voilà, c'est classique. Et l'envie, quand elle est contenue comme ça, elle va grandir, elle va s'amplifier, et ça aura des conséquences sur l'appréhension que peut ressentir la femme au moment, justement, de la pénétration. Surtout que il ne s'agit pas de rien faire du tout en attendant la pénétration. Hein. L'idée, c'est de se donner et de prendre du plaisir autrement, avec des caresses, avec des baisers, avec les bouches.
Oui, laisser parler l'imagination.
Aussi, voilà, toutes les autres parties du corps. L'avantage, c'est que ce qu'on découvre, c'est-à-dire le fait de pouvoir jouir autrement, ça ouvre le champ des possibles, pas seulement pour cette période si particulière, mais aussi pour la suite.
Donc, pour résumer...
communication avant tout. Il faut qu'ils parlent de leurs appréhensions, de leurs frustrations, parce que souvent, on se fait des idées fausses aussi sur les pensées de l'autre. Souvent, on s'imagine, je pense qu'il attend ça, elle attend ça, et en fait, non, ce sont des histoires qu'on s'invente. Il faut faire preuve de patience, surtout. On peut passer par une phase de masturbation aussi, ce qui permet à l'homme de relâcher la pression et à la femme de retrouver le contrôle et aussi de la confiance dans cette partie-là du corps. Puis on met ensuite en place des stratégies pour se retrouver, comme je l'ai expliqué précédemment, pour construire une nouvelle sexualité à deux. Et là, un thérapeute peut aider le couple, bien entendu.
Cédric, nous avons maintenant un message de Mathieu qui nous pose la question de savoir s'il y a un rapport entre la consommation de cannabis et la qualité de ses relations sexuelles. Nous précisons quand même que le cannabis est bien entendu interdit à la consommation par la loi.
Alors oui, il y en a, et comme pour l'alcool, il y a des conséquences positives et des conséquences négatives entre la consommation de cannabis et l'activité sexuelle, effectivement. Les principaux facteurs, en fait, sont le consommateur lui-même, qui réagit différemment aux substances. Il y en a que ça va faire dormir. Il y en a d'autres qui vont être dans une extase plus propice au désir. Et puis, il y a le degré de consommation. La version positive, c'est le cannabis est consommé par deux partenaires. Ça décuple les sensations, ça désinhibe. On ressent plus le toucher, l'orgasme est plus intense. Ok, ça c'est vrai, ça peut arriver. Mais au bout d'un moment, l'organisme s'habitue. Il ne réagit plus avec la même force. Alors il faut consommer plus et plus souvent, et là on tombe dans l'aspect négatif de l'opération. Le stupéfiant à haute dose ne stimule plus, mais endort, et endommage l'endothélium, qui est le tissu qui tapisse les vaisseaux sanguins, et du coup, le risque est d'avoir de sérieux problèmes d'érection.
On le déconseille alors ?
En fait, le problème n'est pas là. Encore une fois, il y a des personnes pour qui l'alcool est aussi un bon stimulant sexuel, mais là aussi, les dommages physiologiques créés par la surconsommation finiront toujours par annuler l'effet positif initial. Donc, il faut plutôt viser une consommation modérée, contrôlée, je dirais. Par contre, si le sexe n'est satisfaisant que s'il y a consommation de cannabis ou d'alcool, c'est qu'il y a dysfonctionnement. Et là, je conseille d'aller consulter un médecin ou un sexologue.
Je précise aussi que la consommation de cannabis est interdite par la loi et je précise aussi que l'alcool doit être bu avec modération, bien entendu.
Tout à fait.
Nouvelle pause musicale dans ces choses qu'on ne dit pas. On se retrouve dans quelques instants sur le 107.5.
If you give them more.
C'était Andrea Motis. Alors Cédric, pour finir, nous avons une question de Cécile qui nous contacte parce qu'elle a l'impression de n'avoir jamais connu l'orgasme. Elle est inquiète et se demande si c'est normal.
Il est très compliqué de répondre à cette question sans en savoir plus et donc sans recevoir Cécile en cabinet. Il y a plusieurs types d'anorgasmie. On parle de troubles primaires de l'orgasme quand la patiente n'a jamais connu l'orgasme de sa vie, soit en couple, soit lors de la masturbation, et ce, quelle que soit la zone stimulée.
Excusez-moi, anorgasmie, ça veut dire avoir jamais eu d'orgasme.
C'est ça, c'est ne pas avoir d'orgasme.
D'accord.
Donc a priori, là c'est le cas de Cécile, hein, mais cette question, elle mérite d'être creusée.
Oui, alors, quels sont les types d'anorgasmie, justement ?
Alors, donc on a parlé d'anorgasmie primaire, il y a aussi l'anorgasmie secondaire, dans le cas où le trouble survient au bout d'un moment dans la vie sexuelle de la patiente. Et puis, il y a des cas plus précis, comme l'anorgasmie situationnelle, où là, c'est le partenaire, le moment ou le lieu qui peuvent avoir un impact sur le plaisir. Et l'anorgasmie coïtale, qui est très fréquente, où là, le problème se concentre sur la pénétration et non sur la masturbation. Souvent, les patientes ont tendance à généraliser quand elles viennent en consultation. Elles pensent et disent ne jamais avoir eu d'orgasme. Mais en travaillant un peu, on peut identifier le dysfonctionnement avec plus de précision.
Et quelles en sont les causes alors ?
Bah souvent, il y a un problème de confiance en soi, de lâcher prise, de contrôle de son image, d'abandon. Les causes, elles peuvent être un événement marquant comme un licenciement, un deuil, un divorce, un événement traumatisant comme une agression sexuelle, un viol. Les accouchements difficiles aussi peuvent être également des causes d'anorgasmie, mais également une vie sociale ou familiale perturbée, la monotonie sexuelle au sein du couple, et même aussi le fait que le partenaire ne sache pas bien s'y prendre. C'est le cas aussi.
D'accord, oui, en fait, il y a différents... Peu importe, il y a des choses qui peuvent être plus ou moins graves, mais même si ça peut être juste des toutes petites choses, ça peut être une conséquence...
La conséquence, ça peut être qu'on n'ait plus d'orgasme. Dès lors que l'individu est perturbé, quelle que soit en fait la gravité, parce que finalement, on a chacun une manière différente d'appréhender la gravité des événements, ça peut créer un dysfonctionnement sexuel et... C'est pas d'orgasme pour les femmes, mais ça peut être aussi des problèmes d'érection, on en a déjà parlé pour les hommes, ou alors une éjaculation précoce. Enfin, la moindre petite chose peut créer de gros problèmes.
D'accord. Mais alors, quelles sont les solutions ?
En fait, les solutions vont justement venir du problème qu'on aura réussi à identifier en thérapie. Donc j'ai un peu l'impression de me répéter, mais je conseille à Cécile de consulter pour savoir à quel endroit de son mental se situe son trouble. Mais je veux quand même la rassurer. Beaucoup de femmes ne connaissent l'orgasme que assez tard dans leur vie sexuelle. Et il est toujours possible de rattraper le temps perdu.
Très bien. Merci à vous, Cédric, pour toutes ces informations. Je rappelle que vous consultez en cabinet à Uzès et à Nîmes et qu'il est possible de vous contacter à l'adresse mail suivante Cédric Perrin, tout attaché en minuscule, .psy, P-S-Y, @gmail.com. Pour vous poser des questions ou prendre rendez-vous.
Absolument.
Merci à Jean-Christophe Quilez pour avoir réalisé cette émission. Nous nous retrouvons sur Radio Fuse le mois prochain. À bientôt.
À bientôt.